Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron déplore un retour à l'âge des impérialismes et des colonies suite à l'invasion russe en Ukraine, des propos hier soir à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. La colère grandit en Iran après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme décédée après son arrestation par la police des mœurs. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. Gros plan sur cette décision dans votre journal avec Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH. Le gouvernement demande au préfet de mettre en place toutes les actions requises pour accélérer les projets d'énergie renouvelable en cours. Nous y reviendrons avec Philippe Bouriaki, conseiller régional en Ile-de-France et porte-parole de l'écologie au centre. Il était l'invité de Pluriel hier soir. Le président français a qualifié hier soir à la tribune de l'ONU la guerre en Ukraine de retour à l'impérialisme. Emmanuel Macron s'exprimait lors de la journée d'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies. La guerre porte atteinte aux principes de notre organisation, porte atteinte au seul ordre mondial possible, porte atteinte à la paix, a déploré Emmanuel Macron, le président français.
Nous avons aujourd'hui à faire un choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion notre sécurité collective. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion, aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes. Et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe ? L'invasion du voisin ? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas ? Quel est cet ordre ? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie ? Je vous remercie.
Le président français Emmanuel Macron est en pleine contre-offensive ukrainienne. Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre de référendum d'annexion par la Russie. Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle de la population russe. 300 000 réservistes sont concernés. La Russie, a-t-il affirmé, a de nombreuses armes pour répondre aux menaces occidentales qui, selon ses mots, ont dépassé toutes les limites. Le président russe a promis d'utiliser tous les moyens à sa disposition alors que son armée est donc en difficulté face aux forces ukrainiennes armées et formées par les pays occidentaux. Les manifestations se sont étendues en Iran pour la cinquième nuit consécutive après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs, une police chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes. Des manifestants sont une nouvelle fois sortis dans les rues d'une quinzaine de villes d'Iran. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée arrêté dans une rue de Téhéran pour un foulard jugé mal porté. Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. L'Organisation internationale des migrations se dit disposée à leur apporter une assistance. Le 6 septembre dernier déjà, 847 personnes originaires d'Afrique subsaharienne étaient arrivées à Agadez en provenance d'Algérie. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France à réexaminer les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. Après cette décision, la France s'est dite prête à envisager de nouveaux rapatriements chaque fois que les conditions le permettront. Alors gros plan sur cette décision de la CEDH avec Maître Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains.
La Ligue des droits de l'homme, évidemment, se félicite, hein, et la FIDH, de cette décision attendue de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était quasiment inéluctable, tant la France viole les principes élémentaires des droits des enfants dans cette affaire. Donc ce qu'on peut, c'est quand même regretter qu'il ait fallu attendre une condamnation de la France qui est plutôt déshonorante, cette condamnation, par la CEDH, pour que on prenne enfin conscience au niveau gouvernemental, semble-t-il, de la nécessité d'agir pour le rapatriement de ces enfants et de leur mère. Mais c'est une décision qui, évidemment, doit être saluée. La Cour européenne des droits de l'homme considère, on ne va pas rentrer dans le détail juridique, mais que la France se comporte d'une manière quelque peu arbitraire dans cette affaire et qu'il lui appartient de réexaminer les situations des enfants et de leur mère pour prendre en particulier en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément aux engagements internationaux de la France qui a bien évidemment, comme la plupart des pays, ratifié la Convention pour les droits de l'enfant.
Cette décision va automatiquement entraîner un changement de politique de la part de Paris sur cette question ?
Alors, on peut l'espérer. La question que vous soulevez est judicieuse dans la mesure où, comme vous le savez, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts qui sont contraignants en principe, mais pour l'exécution, il n'y a pas de police existante à l'appui des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a une part de bonne volonté de la part des États. Mais la France, en général, fort heureusement, suit les voies qui sont ouvertes par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense que là, sauf à continuer de maintenir une politique d'abstention qui deviendrait infamante, hein, pour la France, les autorités françaises vont être obligées de mettre en œuvre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et par conséquent, je pense, dans les semaines à venir, espérons-le en tout cas, à procéder à des rapatriements.
Et vous avez à plusieurs reprises souligné que ce rapatriement était un élément positif d'un point de vue sécuritaire, ce qui n'est pas toujours perçu comme tel par l'opinion publique.
Ben, je crois que ce qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que à tous égards, ce rapatriement est nécessaire. Évidemment sur le plan humain, sur le plan du respect des droits. Le respect des obligations internationales de la France, hein, il faut le rappeler. Mais aussi, même si on procède avec plus de cynisme, ce qui a été le cas malheureusement des autorités françaises jusqu'à présent, l'attitude de refus de rapatriement est très contre-productive. Ces enfants qui ne sont pas nés bourreaux et qui sont victimes des erreurs commises par leurs parents, s'ils se trouvent maintenus dans les camps, nourriront nécessairement une haine légitime de notre pays et seront récupérés tôt ou tard par des groupes islamistes. Donc c'est à ce niveau-là, c'est désastreux. Mais en plus, ces enfants sont avec leur mère. Les mères font toutes l'objet de mandats d'arrêt internationaux de la part de la justice française. Et les magistrats français, les juges du pôle antiterroriste, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir les entendre à leur retour en France, ces maires qui se trouvent incarcérés, poursuivis et jugés dans un cadre judiciaire normal, respectueux des droits de la défense. Donc, à tout niveau, il est préférable, tant d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue humanitaire, que la France, enfin, modifie sa ligne de conduite dite au cas par cas, sous prétexte que, finalement, la raison politique, sous prétexte que l'opinion publique ne serait pas favorable au rapatriement. Mais l'opinion publique, elle est mal informée. Il suffit de faire preuve d'un peu de pédagogie et d'expliquer que de maintenir dans des camps, dans des conditions absolument épouvantables sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, des enfants qui ont pour la plupart d'entre eux moins de 5 ou 6 ans, laisser les mères dans ces camps alors que elles ont vocation à être jugées en France, eh bien c'est la plus mauvaise solution. Ça peut très bien se faire entendre. L'opinion publique française, elle est beaucoup plus évoluée et plus éduquée qu'on ne nous le dit, à condition qu'on l'informe convenablement.
Et justement, comment l'opinion publique allemande ou encore belge a-t-elle réagi? C'est deux pays qui ont récupéré la plus grande partie de leurs, si je puis dire, djihadistes.
À ma connaissance, ça n'a pas soulevé de mouvement de foule. Ce qui pourrait choquer, et on le comprend, c'est s'il y avait un rapatriement avec les femmes, les mères qui elles, sont parties, alors volontairement ou pas, parce que souvent elles étaient avec leur mari, mais parfois elles sont elles-mêmes très investies dans le djihad. Bon, ce qui serait choquant, c'est qu'elles reviennent en France et qu'aucune poursuite ne soit exercée à leur encontre. Là, on pourrait comprendre que cette impunité accordée à des Français ou Françaises qui sont partis hors de France avec l'idée de combattre leur propre pays, on pourrait comprendre que s'il n'y a pas de poursuite, ce serait inacceptable. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La justice les attend. Et pour toutes les mères qui sont revenues, puisqu'il y a déjà eu quand même un certain nombre de rapatriements, très insuffisants, mais notamment il y a quelques semaines, eh bien, immédiatement, les mères sont interpellées, placées en prison et les juges d'instruction mènent leurs enquêtes jusqu'à des procès et des jugements.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains. La commission indépendante sur l'inceste a livré aujourd'hui un rapport suite aux 16 000 témoignages qu'elle a recueillis. Cette commission veut porter la voix des victimes de violences sexuelles dans l'enfance, des victimes qui lui ont confié leur traumatisme. Créée il y a un an, elle appelle les pouvoirs publics à agir vite à travers la mise en place de 5 mesures, un repérage systématique, la création d'une cellule de soutien pour les professionnels, des moyens renforcés pour lutter contre la cyberpédocriminalité, le lancement d'une grande campagne nationale et le remboursement des soins spécialisés en psychotraumatisme. Selon cette commission, une personne sur 10 en France a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Le gouvernement demande au préfet de mettre en place toutes les actions requises pour accélérer les projets d'énergie renouvelable en cours, y compris des projets de parcs éoliens. Objectif, rattraper le retard de la France dans les l'éolien et l'eau solaire sur le mix énergétique. Je vous propose d'écouter Philippe Brouillacqui, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal à Orly, porte-parole de l'écologie au centre. Il était l'invité de Pluriel hier soir.
Évidemment, je souhaite qu'à moyen terme, mais dans l'échelle de l'univers, le moyen terme, ça veut dire entre 25 et 35 ans, qu'on sorte du nucléaire, parce que nous l'avons vu avec Tchernobyl, avec Fukushima, et nous avons failli le vivre avec Fessenheim. Le nucléaire, c'est dangereux et on ne sait pas traiter les déchets. Il faut se le dire honnêtement. Mais à ce jour, nous n'avons pas d'autre alternative. Et c'est pour ça qu'il faut accentuer et accélérer cette fameuse transition écologique et énergétique via un mix énergétique. Ça veut dire, si on mise tout sur le renouvelable, on se plante énormément, et le renouvelable, c'est une énergie intermittente. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, vous n'avez plus d'électricité.
Et les besoins en électricité augmentent considérablement avec la voiture électrique, évidemment, le tout électrique.
Le tout électrique. D'ailleurs, je ne suis pas favorable au tout électrique parce que je considère que la production de ces batteries, leur coût de carbone et de CO2 sont égales à un véhicule diesel, aussi dingue que ça puisse être, mais c'est la réalité. Et puis surtout, le traitement des batteries pose un réel problème.
Les trottinettes électriques, n'est pas écologique.
Ce n'est pas écolo, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une trottinette normale, sans batterie, là c'est écologique. Si surtout on réutilise et on recycle les matières de cette trottinette lorsqu'elle sera en fin de vie. Ce que je veux dire par là, le mix énergétique, c'est effectivement de l'éolien. Et aujourd'hui, on a de l'éolien sans palme. C'est de grands tubes qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres ou moindre selon le besoin qu'on a. Et donc, avec le vent qui rentre à l'intérieur, parce que vous avez des interstices, les vibrations font bouger la turbine qui, elle, produit l'électricité. Vous avez le solaire, vous avez aussi le photovoltaïque. Le photovoltaïque, ce qui est bien, c'est que même s'il n'y a pas de soleil, ça fonctionne parce que ça capte les rayons UVB et UVA.
Et d'ailleurs, les supermarchés sont incités aujourd'hui à construire des toits au-dessus de leur parking, justement pour installer du photovoltaïque. C'est une bonne décision, Philippe.
Bien sûr, c'est une très bonne décision. Mais quand je dis le mix énergétique, ça ne peut pas être que ça. C'est plusieurs facteurs combinés. Vous avez la géothermie, par exemple. Alors là, c'est incroyable. On peut quasiment en faire pratiquement partout, la géothermie. Alors c'est sûr que ça nécessite des investissements importants. Mais comme on l'a fait lors du premier choc pétrolier, pour pouvoir être complètement indépendant dans le parc nucléaire, vous avez aussi l'hydraulique, les barrages hydrauliques, vous avez aussi de l'hydrolien, c'est-à-dire vous avez les éoliennes en haute mer, mais vous avez aussi de l'hydrolien sous-marin, c'est-à-dire qu'ils sont dans le couloir des courants, et donc là vous avez un flux continu non-stop. Vous avez aussi les biomasses, c'est-à-dire nos déchets qui peuvent produire une énergie qu'on peut utiliser. Vous avez aussi l'hydrogène. Enfin, vraiment, il y a un mix extraordinaire. Vous avez les degrés bleus, c'est-à-dire récupérer les énergies, les calories de nos égouts, lorsqu'il y a surtout cette décomposition. Donc, ça fait une source de chaleur. Et c'est tout ça combiné. Et puis, il faut surtout, avant tout, isoler les logements qui sont des passoires thermiques. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Mais il faut le faire tout de suite et immédiatement.
Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal à Orly, porte-parole de l'écologie au centre. Il était l'invité de Pluriel hier soir. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Wari Guermat, ancien candidat à Saint-Denis, membre de l'UDI. Une émission présentée par Loïc Barrière. C'est aujourd'hui la journée mondiale d'Alzheimer. 1 200 000 personnes en France sont touchées par cette maladie, sans compter leurs proches. Une maladie neurodégénérative qui atteint la mémoire et finit par empêcher toute autonomie. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal, 18h30 pour une émission rencontre avec le ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat, Mohamed Mouez Belassine. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.